verrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, cadre de vie et d'autres choses aussi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va sortir des sentiers habituels de cette émission qui sont, on peut dire, sur des choses matérielles. L'architecture, bien sûr, la ville, les arts, plastique. Et on va partir du discours, de la parole. Alors, pas n'importe quelle parole. On va parler d'une parole qui est d'actualité et on va parler des élections américaines. Alors, les élections américaines ont fasciné les Français, bien qu'ils ne votent pas et qu'ils ne sont pas le 51e État des États-Unis. Mais cela nous interpelle, on le sait. Mais mon émission n'est pas une émission politique, mais plutôt, comment dirais-je, une émission sur la forme. Et sur la forme de quoi ? Bien sûr, ça va être sur la forme du discours. Alors, l'intérêt justement de toute la diffusion qu'il y a eu de la campagne de Trump, des commentaires et autres, nous a permis notamment sur une chaîne de voir un discours, on peut dire dans sa totalité, de Trump, qui n'a pas été avare d'intervention tout au long de cette campagne, pouvoir le comparer aussi à celle de la perdante Kamala Harris. Et bien sûr, on va essayer, non pas de faire ce qui a été, à mon sens, un peu trop de jugements moraux sur les uns et sur les autres, et notamment à partir de Trump, qui effectivement se prête aux critiques, on le sait bien, mais on va analyser la forme. Alors, en écoutant ce discours, on est surpris à la fois de la gestuelle du personnage et la manière dont il parle et la manière dont il construit son discours. C'est une chose tout à fait surprenante parce qu'on n'est pas du tout habitué dans le discours politique où il y a un rituel. Disons que le discours politique habituel, c'est un peu comme le sermon en chaire dans les églises. Donc il y a une introduction et puis il y a un développement qui se fait au fur et à mesure et qui va vers, on peut dire, vers un final à la manière d'une symphonie. Exactement pareil. L'introduction, les variations que l'on a sur le thème, le développement et puis le final symphonique avec des arrêts bien ritualisés qui permettent à la foule de s'exprimer. Bon, on a à peu près cela, indépendamment de tout bord politique. Et là, on est en rupture, et c'est une rupture totalement surprenante. Alors, il faut rappeler que ce n'est pas la caractéristique de quelqu'un qui est un nouveau en politique. Alors, non seulement dans le cas présent, il a été déjà président des États-Unis, mais bien au-delà de ça et avant ça, il était une personnalité très connue aux États-Unis depuis très longtemps. Il faisait partie des People, mais de plus, c'était un homme de télévision. Il avait une émission de télévision dont je ne me souviens plus le titre, mais qui était très populaire. Donc, c'est quelqu'un qui sait manier les médias, donc qui sait faire de l'audience et il connaît tous les trucs. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sous une espèce de décontraction apparente, tout ça est extrêmement sophistiqué est, à mon sens, préparé, et ce qui, évidemment, est en rupture totale avec ce que l'on attend. Alors, dans le Figaro de quotidien de cette semaine, il y avait un article de Pascal Bruckner, qui est, comme chacun sait, un philosophe tout à fait pertinent dans ses analyses, et Pascal Bruckner dénonçait d'une manière, on peut dire, assez virulente les expressions et les injures que emploie Donald Trump en, évidemment, le stigmatisant et c'est un offensant. Alors, il faut dire que quand on le lit, c'est assez choquant la manière dont il traite ses adversaires. Quand on l'entend, la chose est un peu différente. Et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que, évidemment, le discours est en anglais, bon, langue que je parle, et ça me permet aussi de rentrer dans certaines nuances que l'on n'a pas dans des traductions qui sont évidemment brutales. Alors, ce qui est surprenant, c'est que, en fait, c'est un discours de bistrot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence et on passe d'un sujet à un autre, et aussi les réactions de la foule ne sont pas du tout l'habitude que l'on a pu avoir dans les meetings. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, d'avoir assisté au meeting de François Mitterrand, qui faisait une sorte de grande épopée du mouvement ouvrier. Ça a duré des heures, c'était assez ennuyeux au final, parce que c'était très fatigant. C'était un tour de force oratoire absolument, à la fois dans la forme, dans la manière dont le verbe était maîtrisé, et quelqu'un qui parlait totalement sans notes. Bon, c'était un tour de force extraordinaire qui était répété, qui durait 3 heures, et on a eu ça aussi avec, en France, les différents présidents, avec plus ou moins de succès, mais c'était le même rituel. Et là, on a cette rupture où on est dans ce que les anglophones appellent le small talk. Et ça ressemble à quoi ? Mais ça ressemble, en fait, à du stand-up. Alors, tout le monde connaît le stand-up, c'est un phénomène qui est relativement récent. Je pense que les premiers en France, c'était Guy Bedos, mais bon, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, Gad Elmaleh, qui maîtrise très bien cette fausse improvisation où à la fois on s'adresse au public et on passe d'un sujet à un autre sans rupture. Et on a aussi dans le stand-up ce qui, je pense, est une raison du succès. On passe dans les... Ce ne sont pas des attaques, mais c'est de l'ironie à peu près sur tout le monde. Et notamment, je regardais justement Gad Elmaleh, il est arrivé à faire une attaque à la fois sur les catholiques, les musulmans et les juifs, en faisant rigoler tout le monde par rapport aux rabbins, aux prêtres et à l'imam. Et en fait, tous les groupes arrivent à rigoler. On a ça aussi au Marrakech du Rire, où c'est une collection de stand-up. Alors, on a quelque chose qui est très populaire, c'est-à-dire que chaque groupe reçoit une ironie et tout le monde rigole de l'ironie des autres. On ne s'adresse pas à chacun. Et je pense que ce qui a été noté par rapport à Kamala Harris, c'est que Kamala Harris, pendant sa campagne, elle s'est adressée aux différents groupes. Elle s'est adressée d'une manière... Elle a fait des discours et elle s'est adressée à eux. Elle s'est adressée aux Noirs, elle s'est adressée aux Latinos, elle s'est adressée aux homosexuels. Et justement, le propre du stand-up, on peut dire trumpien, et cette espèce de nonchalance que les gens retrouvent, alors effectivement dans le rap, dans le stand-up, dans cette improvisation ou fausse improvisation, je ne sais pas à quel degré tout ça est planifié, mais c'est peu important si on improvise ou si c'est des choses qui sont et qui ont été totalement répétées et planifiées. Mais Ce qui est important, c'est que il y a à la fois on peut dire ce rapport détendu que l'on retrouve dans les bistrots, mais aussi que l'on retrouve dans les cocktails de la grande bourgeoisie où personne ne fait de grands discours. On est dans l'échange à bâtons rompus et il serait inconvenant dans ces rapports que l'on a dans une réunion de cocktail d'entreprise, même à plus haut niveau, de tenir un discours structuré et au contraire, tout l'art, c'est de le prendre avec une sorte de dérision. Et ce qui est aussi, d'une autre manière, celui de ce que je disais dans le rapport populaire, c'est-à-dire que le discours du café du commerce. Et donc, on a justement un acteur politique, on peut dire âgé, boomer, dirait aujourd'hui les jeunes, qui emploie le langage et la forme du rappeur et qui est tout à fait surprenante et qui, effectivement, a du succès. Alors, vous me direz, qu'en est-il en France ? Eh bien, justement, on a eu récemment un phénomène tout à fait étonnant avec notre nouveau Premier ministre. Alors justement, il a l'âge de Trump, c'est-à-dire il est aussi, ce que je vous disais à l'instant, un boomer. Et je pense que tout le monde a vu cette série qui a été répétée à la télévision, où il a remis en place, alors la première, il a remis en place Gabriel Attal à la cérémonie d'entrant comme Premier ministre, mais également à l'Assemblée nationale, où on a des déclarations péremptoires des groupes politiques. Et lui, il est arrivé en tenant un papier, en faisant semblant de lire des notes. Il ne lisait pas ses notes. Il faisait semblant d'improviser. Et il a aligné tout le monde sur un ton, justement, de petites discussions, de cocktails, de café, de commerce. Et on a vu successivement Gabriel Attal, Éric Ciotti, les mélenchonistes, ont été foudroyés sur place par un petit discours nonchalant. Et alors, évidemment, s'il y a bien deux personnes qui ne se ressemblent pas, ce sont Trump et Barnier, un avec une vie mouvementée que l'on connaît, et Michel Barnier qui est austère et tout à fait l'opposé de Trump. Mais justement, on peut dire sur la forme, avec un petit ton nonchalant qui est celui de Trump, parce que la différence entre lire et puis la manière dont les choses sont dites, c'est tout à fait différent. Alors, pour reprendre ce que disait Pascal Bruckner, alors effectivement, tout est dans la manière dont on prononce les insultes. Alors, nous sommes à Radio Esprit Occitanie, et je vais vous rappeler Nougaro. Nougaro dit « On se traite de con à peine qu'on se traite ». Alors, c'est tout à fait différent de dire « au con » à Toulouse. Et puis, le con, dit par un Parisien, en ouvrant la fenêtre de la glace de sa voiture, et tout est dans la manière dont on le dit, et cela change. Donc, la nonchalance du ton qui fait passer en rigolant des propos que l'on pourrait qualifier d'injurieux, il est évident que si on les lit, le rapport est totalement différent. Alors, tant qu'on est à parler de l'Occitanie, il y a le fameux « il des putes ». Je pense que tout le monde comprend, si vous ne comprenez pas l'occitan, enfin, si vous comprenez l'anglais, c'est « son of a bitch », et bon, on peut traduire « fils de pute », alors le qui était, pour quand on parlait notre langue occitane, une sorte d'interjection. bon. Alors, il y avait un comique palois qui avait fait un excellent, une excellente histoire de prisonnier en Allemagne, où il faisait, à travers le fameux « Hil des putes », toutes les expressions, où on avait le « Hil des putes » admiratif, le regret, et à partir de la même phrase dont on oubliait le sens, et tout était uniquement dans la gestuelle et dans l'intonation. Alors, voilà, donc, je voulais faire ce rapport entre le mot et les mots et la forme. Et puis, dans la seconde partie, je vais évidemment revenir à un rapport qui va être un rapport plus spatial, de la manière dont on parle, justement, dans ce que je vous disais, avec les différents groupes, s'adresser aux groupes différemment ou s'adresser à tout le monde. Nous allons marquer une pause musicale. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. Thank you. reprenons sur le sujet donc, qui était celui de la campagne américaine, mais on va parler du territoire. Alors, dans la première partie, je vous avais parlé du découpage du discours. Je vous parlais du sermon en chaire et aussi du discours politique et comme de la symphonie, mais on pourrait étendre cela aux autres formes, ne serait-ce que la manière dont un livre est organisé, également en chapitres, découpé, et aussi à la ville, et nous y arrivons. La ville ancienne, elle a une entrée visible, un axe principal, des bâtiments qui sont identifiables et dont les accès sont les plus visibles et compréhensibles. Et on a la ville qui se décline aussi d'une manière en quartier, et une organisation qui reprend, encore une fois, celle du discours, celle du livre, celle de l'organisation, de la pensée. Alors, on peut dire que cette forme, dans le cas de la ville, s'est arrêtée au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, et ça, on peut le retrouver dans des émissions précédentes que j'ai déjà faites, mais on a cela qui s'étend de la ville à toutes les formes. Alors, par exemple, je citais la symphonie, mais la symphonie, actuellement, elle est remplacée, justement, comme le stand-up par rapport à un discours organisé. On a également la musique, par exemple le jazz, qui, évidemment, le jazz, au début, était limité aux 78 tours, puis après au micro-sillon, et découpé suivant une temporalité qu'aujourd'hui, l'enregistrement permet la réalité de ce qu'est un concert, et un concert de jazz, la plupart du temps, c'est d'abord la structuration, elle est faite d'une part d'improvisation assez systématique, on peut dire, et aussi, il peut y avoir ce que l'on appelle un bœuf, c'est-à-dire que la fête continue et on ne reste pas dans les limites d'un temps imparti, mais dans une sorte de temps sans repérage et sans structuration. Alors la ville moderne, et ça je pense à ma profession qui nie cette réalité-là parce qu'il pense le discours sur la ville qu'il faut reprendre et que l'on vit tous les jours dans l'urbanisme actuel, et ça j'en ai parlé dans d'autres émissions, donc je reprendrai ce sujet, mais cette non-acceptation de la réalité du monde d'aujourd'hui et de ce qu'on appelle la périphérie, mais qui est en fait le territoire qui est revitalisé justement par des activités, mais qui n'a plus la même organisation lisible que l'on pouvait avoir dans cette ville qui était, on peut dire, cette ville classique et avec une lisibilité totale. Donc on est dans un monde plus complexe, moins lisible. Et donc la forme du discours aujourd'hui du politique, eh bien, ressemble à cela, avec un discours qui n'a évidemment, alors il n'a pas ni queue ni tête, il a simplement ni début ni fin. C'est encore une fois, c'est une sorte de stand-up continu. Et le discours de Trump, puisque c'est de celui-là dont je parlais, me paraissait l'archétype. Et apparemment, il a été compris par la majorité des gens. Et évidemment, il y a le fond et la forme, mais je pense aussi qu'il s'est adressé d'une manière uniforme à des gens qui, effectivement, sont éclatés dans l'espace. Alors ça, c'est quelque chose qui est important, à mon avis, parce que la manière dont on oppose aujourd'hui les villes et les périphéries me semble assez fictif. puisque on a une répartition sur le territoire à la fois de la population, mais aussi des groupes différents suivant les classes sociales, aussi suivant les provenances ethniques et autres, l'immigration. Et c'est une réalité. Donc il y a effectivement toujours cet appel au vivre ensemble, mais qui est d'autant plus surprenant qu'il vient souvent des cœurs des villes et de gens justement qui font tout pour le refuser par toutes les méthodes de non-accès au centre-ville et qui me paraît plutôt un discours incantatoire qu'une réalité partagée. Donc le problème n'est pas de vivre ensemble autant au sens de vivre côte à côte dans des logements, mais de vivre ensemble, il faudrait le prendre dans faire nation et avoir le sens beaucoup plus large d'une nation commune. Alors c'est probablement ce que l'on comprend mal des États-Unis. Alors, vous parlez des États-Unis. J'en parle en connaissance de cause pour y avoir vécu, avoir fait des études aux États-Unis et donc avoir vécu en tant que petit Français un espace-temps qui est complètement différent du nôtre. Alors, non pas que la France est une sorte de mélange idéalisé de classes sociales, puisque évidemment tout ça est une fiction, et quand on parle de la ville ancienne qui était le vivre ensemble, tout ça est totalement faux. On sait très bien que les ouvriers ne vivaient pas avec les aristocrates et avec les gens riches, qu'il y a une ségrégation et des barrières sociales, mais il y avait effectivement peut-être une idée de nation qui s'est perdue actuellement. Donc la question, c'est bien celle-là, de retrouver cette unité de nation. Et aux États-Unis, c'est quelque chose qui existe dans un pays qui est extrêmement fractionné en groupe d'une manière qui est très, très surprenante pour nous Français. Alors, un des mots qui revient en permanence dans la vie américaine, c'est « community ». Communauté, en français, ça ne veut pas dire grand-chose, « communauté ». Aux États-Unis, c'est un mot qui est très positif, tandis qu'en France, le communautarisme, c'est un mot négatif, tandis qu'en Amérique, c'est un mot positif. C'est la communauté, c'est dire on fait partie d'une communauté et les biens de la communauté. Alors, c'est évidemment, c'est très protestant, cela, et la religion protestante, c'est elle qui a marqué, inscrit le territoire, et les communautés se retrouvent dans une séparation qui, pour nous, est totalement surprenante. Et par exemple, il y a des communautés autour des églises, et les églises, comme l'on sait, sont différentes, parce qu'il y a une kyrielle de variantes du protestantisme évangélique, et cela fait des communautés. Alors la communauté, effectivement, c'est un lieu de soutien et relativement, alors pas forcément très fermé, mais en tout cas d'une solidarité entre ses membres, mais aussi autour des écoles, autour des universités. La communauté des universitaires dure toute la vie, on fait des dons. C'est des choses, évidemment, n'existent absolument pas en France. Donc il y a une société qui n'est pas fracturée comme on le croit et comme on l'a dit. Qu'est-ce qu'on a pu entendre dire sur cette Amérique fracturée en deux? Elle est fracturée en deux, ça devait être la guerre civile. Alors moi, quand j'étais aux États-Unis, il y a fort longtemps, et c'était une période qui a été extrêmement complexe, puisqu'il y avait les émeutes noires, il y avait la mort de Martin Luther Luther King et la ville dans laquelle j'habitais, Détroit, ou plutôt la banlieue de Détroit, était une ville effectivement où les communautés ne se mélangeaient absolument pas, et on peut dire même il y avait des barrières invisibles. Alors ce n'était pas des ghettos comme l'on croit. J'ai entendu dire récemment que le mot ghetto qui est appliqué à nos quartiers venait des États-Unis, mais non, pas du tout. Jamais le mot ghetto est employé aux États-Unis. Le mot ghetto était réservé aux Juifs dans leur histoire, notamment dans le nord de l'Europe, et avec les histoires qu'il y a eu, et on appelait ça les quartiers noirs, Black Neighborhood, et jamais le mot ghetto. Donc cette projection, toujours sur les États-Unis, à l'envers de la réalité, est assez surprenante dans ce rapport que l'on a avec l'Amérique. Alors pour vous dire, c'est qu'en fait, il y avait des barrières invisibles. On ne voyait absolument pas. Et alors c'est d'autant plus surprenant, c'est que, par exemple, à Détroit, mais c'est le cas de valable dans beaucoup de villes, il y a une unité complète au niveau architecture, le passage de l'un à l'autre. Alors évidemment, il y a les quartiers pauvres où on voit que les maisons sont plus pauvres, mais l'architecture n'est pas très différente, et il n'y a pas cette opposition que l'on peut avoir dans les banlieues de nos villes, en tout cas en France. Et on a par contre des barrières invisibles, et dans le cas notamment de la communauté noire, on rentrait dans un quartier noir, tout le monde était noir et on se sentait blanc. C'est quelque chose d'extrêmement choquant et difficile pour nos repères. Alors là, de ce côté-là, les choses ont changé, heureusement, et on voit de plus en plus des groupes mélangés au travail, dans les universités et autres, par rapport à cela. Alors, le problème, justement, de cette société, c'est que elle était fractionnée d'une manière, on peut dire, naturelle, puisque il y avait dans cette Amérique issue de l'immigration et d'une immigration constante, il y a des groupes des Latinos, il y a des quartiers juifs, il y a des quartiers blancs ou WASP, anglo-saxons protestants. Enfin, il y a effectivement des regroupements autour des églises, des écoles qui sont marqués. Il y a par exemple l'université noire, Howard University, où a été Kamala Harris, et bien qu'elle ne soit pas issue de elle n'est pas Black American, mais elle est d'origine indienne. Tout cela, effectivement, est assez incompréhensible pour nous Français. Donc, on a une projection sur une Amérique fractionnée, mais qui est la nature même de ce pays, et effectivement, qui est surprenant pour nous. Alors, est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes fractionnés ? Alors, effectivement, nous le sommes en classe sociale, et de toujours, mais il y a, ne serait-ce que par exemple, dans un enterrement, dans une église, même s'il y a une baisse de la religiosité, il y a toujours en France les classes sociales mélangées, même si les gens ne partent pas en vacances ensemble. Il y a, je pense, une relation qui est beaucoup plus fluide, mais qui n'est pas sur un plan moral meilleur, mais qui est simplement une histoire différente. Donc, pour revenir à l'espace, la manière dont il est structuré et fragmenté, je pense que le discours de Trump, évidemment, je ne parle que de la forme et je n'irai pas sur le fond, si ce n'est qu'il a su parler à une majorité de population, et notamment, il a unifié son discours pour parler à ce qu'on croyait être une fragmentation, mais qui est tout de même regroupée autour de la valeur essentielle de la nation. Et de ce côté-là, alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour les Américains, mais en tout cas, je pense que pour nous, ça serait aussi une bonne chose qu'on ait un discours sur la nation qui soit un discours unificateur, parce que cette, le faux vivre ensemble à travers le logement avec les lois que l'on a de mixité sociale et tout ça, auxquelles je ne crois absolument pas, parce que les différences et les barrières sont dans la tête des gens et sont dans les situations matérielles et réelles et ne sont pas dans le rapprochement artificiel que l'on peut avoir. Donc on est, nous, sur cette fiction et on a oublié effectivement ce qui fait lien, c'est-à-dire c'est notre histoire, la société française, nos caractéristiques et aussi reconnaître notre diversité, mais notre diversité et notre unité. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. C'était Où vivrons-nous demain ? Je remercie Grégor qui était à la technique avec le nouveau matériel de Radio Esprit Occitanie et la présence amicale de Jean-Luc. À la semaine prochaine.